Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bahili.
Le tout premier ambassadeur de la Tunisie, avec pour résidence à Ouagadougou, est en fin de mission dans notre pays. Mohamed Kaloun est allé remercier le président du Faso pour l'excellence des relations entre les deux pays. Emploi, formation, le bureau pays de l'Organisation internationale du travail organise depuis ce matin à Ouagadougou un atelier national consultatif pour faire l'état des lieux. Et puis, Senabré n'est plus. L'ancien président tchadien est décédé aujourd'hui des suites de Covid-19 à l'âge de 79 ans à Dakar au Sénégal, a confirmé l'AFP. Son portrait dans ce journal. C'est le sommet, le développement dans un instant. Bonjour madame, bonjour monsieur. Arrivé au Burkina le 17 février 2017, le tout premier ambassadeur de la Tunisie dans notre pays avec résidence à Ouagadougou est en fin de mission. Ce mardi, Mohamed Kaloun est allé remercier le chef de l'État pour l'excellence des relations entre les deux pays. Le diplomate tunisien a saisi l'occasion de cette audience pour faire le point de la coopération entre le Burkina et la Tunisie.
J'ai fait le point avec son excellence sur les avancements de relations bilatérales et surtout j'ai fait un bilan sur la coopération bilatérale pendant mon exercice ici, c'est-à-dire pendant 4 ans et 6 mois. Comme vous savez, j'étais le premier ambassadeur résident ici au Burkina Faso parce que ma mission essentielle était d'ouvrir une ambassade résidente ici. Et depuis, on a réalisé beaucoup de choses sur le plan bilatéral. On a remarqué un dynamisme bien accéléré sur le plan d'échange de visites de hauts responsables des deux pays, malgré la COVID qui a freiné un peu le rythme des contacts et des visites bilatérales entre les deux pays. On a essayé de maintenir un niveau respecté de relations, de coopération, de contacts entre les deux pays, même parfois sur le plan virtuel. On a l'ambition de renforcer davantage la coopération et surtout j'ai appelé que la commission mixte entre les deux pays, c'est-à-dire la prochaine session, doit tenir le plus tôt possible ici au Burkina Faso. Je crois que cette commission sera la bonne opportunité pour évaluer la coopération entre les deux pays et pour aussi élargir et signer d'autres accords et même d'essayer de trouver la solution des problèmes qui entravent la coopération entre les deux pays.
À sa suite, le président du Faso a reçu le rapport général d'activité du Haut Conseil du Conseil social depuis sa création et l'installation de ses membres en mai 2018. À sa sortie d'audience, le professeur Domba Jean-Marc Palme, président du Haut Conseil du Dialogue social, nous livre l'essentiel des échanges qu'il a eu avec Roch Kabore.
Ce rapport contient donc les activités que nous avons faites. Il s'agit de renforcement des capacités des acteurs, de règlement également des questions, des tensions dans le domaine du travail et de la sensibilisation. Et c'est voilà un peu succinctement le contenu du rapport. Nous avons également remis au président du Faso un fascicule que nous avons fait concernant la création du Haut Conseil du Dialogue Social. Parce que il faut couper court à un ensemble de rumeurs qui font croire que c'est le gouvernement qui a décidé de créer l'institution, alors que ce n'est pas du tout le cas. Tous les acteurs du monde du travail ont pris part à ce processus de création du Haut Conseil. L'historique donc retrace ça et permet à tout un chacun d'avoir des idées claires sur la question. Ça permet de couper court aux différentes rumeurs.
Le Burkina Faso participe depuis ce matin à la formation des formateurs de la gouvernance de l'Internet. Initiée en 2015, cette 7e édition se tient en visioconférence pour raison de Covid-19. La formation regroupe des experts et professionnels des TIC des 13 pays africains et dans le monde. Elle veut les outiller sur la protection de l'Internet et sa souveraineté et lutter contre la cybercriminalité dans le continent. Sur plus de 400 candidatures, 100 ont été sélectionnées. Adia Ouattara Sanon, la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale, est au micro de Mouni Yaro.
Il est important que les États participent à ces échanges ou gérer ces ressources critiques d'Internet pour assurer leur souveraineté numérique. Et pour participer, il faut être outillé. Il faut déjà comprendre comment fonctionne tout ça. Et ce séminaire a comme objectif d'outiller les experts africains, surtout francophones, pour pouvoir participer à ces cadres donc d'échange et assurer la souveraineté numérique de l'Afrique et protéger les ressources critiques d'Internet. Et ce séminaire se tient à un moment où le registre africain traverse une crise en ce qui concerne la gestion de ces ressources critiques. Donc il est important de comprendre comment tout cela fonctionne afin de sauvegarder ces ressources critiques et de mieux utiliser ces ressources critiques. Sinon, c'est le fonctionnement de l'Internet en Afrique qui est en danger.
Dans le cadre du projet d'accompagnement et de renforcement des capacités pour améliorer la définition, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques emploi-formation des jeunes, le Bureau Pays de l'Organisation internationale du travail à Abidjan organise du 24 au 25 août prochain à Ouagadougou un atelier national consultatif sur l'état des lieux en matière d'emploi-formation. La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est déroulée ce matin. Régis Bonny.
L'objectif de cet atelier national consultatif est de diagnostiquer l'ensemble des difficultés qui entravent la conception des politiques nationales en matière d'emploi-formation et de renforcement des capacités des acteurs nationaux à la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de l'ensemble des projets en matière d'emploi-formation. Salif Otiem-Touré, ministre en charge de l'emploi.
Nous sommes là ce matin pour un atelier national pour essayer donc de réfléchir sur la conception donc d'un projet sous-régional qui vise donc le renforcement de la conception, la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation des politiques, plans, programmes et projets en matière donc d'emploi et de formation.
Ces politiques nationales en matière d'emploi-formation qui n'arrivent pas à satisfaire l'ensemble des objectifs fixés constituent donc un obstacle à la capitalisation des résultats, ce qui empêche d'avoir un réel cadrage des politiques à mettre en œuvre. Salif Otiem-Touré, ministre en charge de l'emploi.
Donc ça nous empêche d'avoir donc une réelle conception, un réel cadrage de l'ensemble donc des politiques que nous voulons mettre donc en œuvre. Donc ça va être donc réellement un plus et dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation donc de l'ensemble donc des politiques, plans et programmes mis en œuvre dans le cadre de la formation et de l'emploi.
Prévu se tenir jusqu'au 25 août prochain, l'atelier national consultatif sur l'état des lieux en matière d'emploi-formation devra donc permettre d'améliorer la mise en œuvre des politiques nationales fortes en matière d'emploi et de formation.
La personne humaine est la plus précieuse des richesses. C'est cet esprit qui a guidé la députée Adja Congo à organiser ce mardi une journée de don de sang en collaboration avec les habitants de la Padoua dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. L'objectif est de venir en aide aux malades dans cette période de forte demande. Abdulaziz Zoulabou.
La demande en don de sang est importante au Burkina Faso. Les accidentés de la route, les patients souffrant de maladies graves, les drépanocytaires et les malades du paludisme sont autant de patients nécessitant une transfusion sanguine. Initiée par la députée Adja Congo, habitante de la Padoua, ce don de sang a mobilisé des leaders d'associations féminines de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Il s'agit de soulager les centres de santé et surtout les malades dans cette période de forte demande. Adja Congo, Netiendrebeogo, initiatrice de la journée.
Nous avons initié cette activité ce matin pour donner du sang au profit des malades. C'est un acte de solidarité. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de sang en vente. Et c'est un liquide précieux, vital. Sans le sang, il n'y a pas de vie.
La saison pluvieuse est une période d'assèchement des banques de sang au Burkina. C'est pour améliorer la situation que Boukari Kabré partage le liquide précieux depuis des années. Aujourd'hui médecin, il connaît encore mieux les situations qui peuvent occasionner un besoin en sang. Boukari Kabré, donneur.
Le besoin est très important à tous les niveaux, en maternité, en pédiatrie, en chirurgie, etc. et même au niveau des accidentés. C'est pour cela que nous avons décidé de faire ce geste.
Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées pendant cette période de forte demande pour inciter les jeunes à donner leur sang. Et cette initiative de la députée Adia Congo est la bienvenue. Jeanne Ouedraogone Iloudo, responsable de l'équipe en charge de la collecte.
Nous saluons ces gens d'initiative, que ça se répète, voilà, parce que ça nous aide. Quand on travaille et qu'on a beaucoup de poches, ça nous permet aussi de satisfaire ceux qui viennent vers nous.
Selon la directrice du Centre régional de transfusion sanguine, la demande journalière en 2020 était de 35 poches pour 150 personnes en saison pluvieuse.
L'ancien président tchadien est décédé aujourd'hui des suites de COVID-19 à l'âge de 79 ans, a confirmé un ministre sénégalais cité par l'AFP. Hissène Habré avait été hospitalisé ces derniers jours à Dakar au Sénégal où il purgeait sa peine de prison à perpétuité après avoir contracté la maladie. Le portrait d'Hissène Habré avec Bernabé Cabré.
Combattant du désert, chef de guerre, les qualificatifs abondent pour exalter les qualités militaires de Hissène Habré du temps de sa conquête du pouvoir. Et pour cause, son parcours dans les années 1970 et 1980 s'inscrit dans l'histoire agitée du Tchad indépendant dont il a été le troisième président. Hissène Habré a grandi dans le désert, au milieu de bergers nomades et se fait remarquer par ses maîtres. Devenu sous-préfet, il part étudier en France en 1963. De retour au Tchad en 1971, il rejoint le Front de Libération Nationale dont il prend la tête avant de fonder le Conseil des Forces Armées du Nord. À partir de 1974, Hissène Habré se fait connaître à l'étranger en retenant en otage durant 3 ans l'ethnologue française Françoise Clostre, obligeant la France à négocier avec la rébellion. Il sera ensuite Premier ministre, puis ministre de la Défense et président du gouvernement d'Union Nationale créé en 1979. Nationaliste convaincu, il est farouchement opposé aux dirigeants libyens de l'époque Muammar Kadhafi. Fin 1980, il déclenche une guerre pour rentrer victorieusement en N'Djamena en 1982. Son régime, soutenu par la France et les États-Unis, va durer 8 ans. Cette période est marquée par une terrible répression. Les opposants sont arrêtés, torturés, souvent exécutés. Une commission d'enquête estimera à plus de 40 000 le nombre de personnes mortes en détention ou exécutées sous son règne. En décembre 1990, Hissène Habré quitte précipitamment N'Djamena, fuyant l'attaque éclair des rebelles d'Idriss Déby Itno, un de ses généraux, tué en avril 2021 par des rebelles. Chassé du pouvoir, Hissène Habré trouve refuge à Dakar pour un exil qui sera paisible pendant plus de 20 ans. Avec l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, il est finalement arrêté en juin 2013 à Dakar. Le 30 mai 2016, il est condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol.
Au Nigeria, un groupe armé a attaqué ce mardi une académie militaire du nord-ouest du Nigeria où 2 officiers ont été tués et 1/3 enlevé, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'établissement. Les mesures de sécurité de l'académie ont été mises en brèche tôt ce matin par des hommes armés inconnus, a affirmé le commandant Bachir Moud Jazira, porte-parole de l'académie de l'état de Kaduna, précisant que cette attaque contre la Nigerian Defense Academy, école de formation d'élite du pays, est la première du genre contre une armée engagée dans la lutte contre les djihadistes dans le nord-ouest, dans le nord-est et des gangs criminels lourdement armés dans le nord-ouest. Selon un message interne de l'armée vu par l'AFP, un capitaine de corvette et un lieutenant de vaisseau ont été tués. Un commandant a été enlevé et un autre officier a été blessé. L'académie a seulement indiqué que l'attaque avait été menée par des hommes armés inconnus. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque contre l'académie, mais le nord-ouest et le centre du Nigeria sont confrontés à des recrudescences d'attaques menées par des gangs criminels connus sous le nom de bandits. Ces derniers pillent les villages et le bétail et procèdent à des enlèvements de masse contre rançon. Et puis, l'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc. L'annonce a été faite par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, lors d'une conférence de presse ce mardi. Il évoque des actions hostiles du royaume chérifien vis-à-vis de son pays. Les relations entre Alger et Rabat étaient depuis quelque temps tendues.
La revue de presse.
Retrouvons Asmaou Dao qui a parcouru pour nous les quotidiens de la place.
Divers sujets abordés par les journaux du jour, commençons par le quotidien, le confrère titre « Lutte contre la vie chère au Burkina Faso, le gouvernement à l'épreuve du libéralisme ». Il écrit dans ses colonnes « Si l'État continue d'être faible et reste incapable d'imposer et de s'imposer en faisant respecter les décisions qu'il prend à coup de tapage médiatique face à la flambée des prix constatée actuellement, les populations couleront toujours sous le poids des problèmes à résoudre au quotidien ». Le confrère Le Quotidien qui opine aussi sur la liberté d'expression titre « Repression contre la liberté d'opinion, des signes évidents d'un régime aux abois ». Mentionne-t-il dans ses colonnes « Dernier pays à connaître les attaques terroristes, il s'est englé dans une analyse myope et chétive de ses autorités au point que sa situation s'est empirée au fil des années. Ni les interpellations, ni les arrestations, ni les emprisonnements n'empêcheront le peuple de se rendre à l'évidence de ce sombre tableau, point de la révision du code pénal pour amener à terre tout mécontentement ou toute grogne n'est que peine perdue, d'autant que le fardeau du peuple vient de s'alourdir avec la hausse vertigineuse des produits de première nécessité, selon le journal Le Quotidien. Sidoya, lui, revient sur la crise sécuritaire en titre se lit « Au-delà de l'indignation, le quotidien d'État estime que la dimension militaire de la lutte a impérativement besoin de l'appui nécessaire des populations civiles. Même si la tentation est grande de sombrer dans le désespoir, il faut s'en abstenir. Nous devons sortir de nos petits calculs égoïstes pour soutenir la lutte contre l'obscurantisme », écrit Sidoya. Aujourd'hui, au Faso s'est penché sur un rapport d'enquête, il titre « Enquête d'Amnesty sur les armes de guerre utilisées au Sahel, vieilles AK-47 et mitraillettes serbes dictent leurs lois. L'opinion du confrère est que, bien sûr, personne n'est dupe. En temps de guerre, les vendeurs d'armes se frottent les mains. Le business est florissant. On vend aux différents camps et tant pis pour les victimes. Pour le journal, en fait, Amnesty exhibe une petite partie de l'iceberg. Et le combat contre le terrorisme au Sahel doit aussi concerner celui contre le trafic illicite et criminel qui a pignon sur les sables du Sahel, estime aujourd'hui au Faso. Terminons par le confrère Le Pays avec un titre « Fermeture d'établissements scolaires non reconnus, une mesure de salubrité publique qui ne doit pas cacher la réalité ». Pour le confrère, tant que des mesures significatives et dissuasives ne seront pas prises et traduites dans les actes à leur encontre, l'on ne fera que tourner en rond. Et les pauvres et innocents enfants paieront pour des fautes commises par des gens qui ne croient qu'en maman, a-t-il écrit.
C'est ici que prend fin cette édition réalisée par Adama Konaté. Merci de l'avoir suivi.